Question. Lorsque tu dis qu'une prière est une affirmation de ce qui est, veux-tu dire que Dieu ne fait rien, que tout ce qui arrive après une prière est le résultat de l'action de celui qui prie? Réponse. Si tu crois que Dieu est un être tout-puissant qui entend toutes les prières, dis oui à certaines, non à d'autres, et peut-être, mais pas maintenant au reste, tu te trompes. Selon quelles règles Dieu déciderait-il? Si tu crois que Dieu est le créateur et décideur de toutes choses dans ta vie, tu te trompes. Dieu est l'observateur et non le créateur. Et Dieu demeure prêt à t'aider à vivre ta vie, mais pas de la façon dont tu pourrais t'y attendre. Le rôle de Dieu n'est pas de créer ou de décréer les situations ou les conditions de ta vie. Dieu t'a créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Toi, tu as créé le reste, grâce au pouvoir que Dieu t'a donné. Dieu a créé le processus de la vie et la vie même telle que tu la connais. Cependant, Dieu t'a donné le libre choix de faire ce que tu veux de la vie. En ce sens, ta volonté en ce qui te concerne et la volonté de Dieu en ce qui te concerne. C'est la grande illusion dans laquelle tu t'es engagé, que Dieu se soucie d'une façon ou d'une autre de ce que tu fais. Je ne me soucie pas de ce que tu fais, et cela te semble difficile à entendre. Pourtant, te soucies-tu de ce que font tes enfants lorsque tu les envoies jouer? Est-il important pour toi de savoir s'ils jouent à cache-cache ou à faire semblant? Non. Car tu sais qu'ils sont en parfaite sécurité. Tu les as placés dans un environnement que tu considères accueillant et très convenable. Bien entendu, tu espères toujours qu'ils ne se blesseront pas. Et si cela arrive, tu vas courir les aider, les soigner, leur permettre de se sentir à nouveau en sécurité, d'être à nouveau heureux et de retourner jouer le lendemain. Mais qu'ils choisissent de jouer à cache-cache ou à faire semblant, cela n'aura aucune importance pour toi le lendemain non plus. Tu leur diras bien sûr quels jeux sont dangereux. Mais tu ne peux empêcher tes enfants de faire des choses dangereuses. Pas toujours, pas indéfiniment, pas à chaque instant de leur vie. Un parent intelligent sait cela. Et pourtant, ce parent ne cesse jamais de se soucier du résultat. C'est cette dichotomie, ne pas se soucier profondément du processus, mais se soucier profondément du résultat, qui peut servir à décrire la dichotomie de Dieu. Mais Dieu, en un sens, ne se soucie même pas du résultat. Pas du résultat ultime, c'est parce que le résultat ultime est assuré. Telle est la seconde grande illusion de l'homme, que le résultat de la vie soit douteux. C'est ce doute, quant au résultat ultime, qui a créé ton plus grand ennemi, la peur. Car si tu doutes du résultat, alors tu dois douter du Créateur, tu dois douter de Dieu. Et si tu doutes de Dieu, tu dois passer toute ta vie dans la peur et la culpabilité. Si tu doutes des intentions de Dieu et de la capacité de Dieu de produire ce résultat ultime, alors comment pourras-tu jamais te détendre? Comment pourras-tu jamais véritablement trouver la paix? Mais Dieu a le pouvoir absolu de faire concorder les intentions avec les résultats. Comme tu ne peux le croire, et que tu ne le croiras pas, même si tu prétends que Dieu est tout-puissant, tu es obligé de créer en imagination une force égale à Dieu pour faire en sorte que la volonté de Dieu soit contredite. Ainsi, tu as créé dans ta mythologie l'être que tu appelles diable. Tu as même imaginé un Dieu en guerre avec cet être, croyant que Dieu résout les problèmes de la même façon que toi. Finalement, tu t'es imaginé que Dieu pouvait perdre cette guerre. Tout cela contredit tout ce que tu prétends savoir à propos de Dieu, mais c'est sans importance. Tu vis ton illusion et par conséquent, tu sens ta peur. Et de tout cela découle de ta décision de douter de Dieu. Mais que se passerait-il si tu prenais une nouvelle décision? Quel serait alors le résultat? Je te dis ceci. Tu vivrais comme le Bouddha a vécu, comme Jésus a vécu et comme tous les saints que tu as jamais idolâtrés. Cependant, comme c'est arrivé à la plupart de ces saints, les gens ne te comprendraient pas. Et lorsque tu essaierais d'expliquer ton sentiment de paix, de joie dans la vie, ton extase intérieure, ils écouteraient tes paroles en y ajoutant toutefois quelque chose. Ils se demanderaient comment tu as bien pu avoir ce qu'ils ne peuvent trouver. Et alors, ils deviendraient jaloux. La jalousie se changerait bientôt en rage, et dans leur colère, ils essaieraient de te convaincre que c'est toi qui ne comprends pas Dieu. Et s'ils échouaient à t'arracher à ta joie, il cherchera à te nuire tellement leur rage serait grande. Et lorsque tu leur dirais que c'est sans importance, que même la mort ne peut interrompre ta joie ni changer ta vérité, ils te tueraient sûrement. Alors, en voyant la paix dans laquelle tu as accepté la mort, il fera de toi un saint et t'aimerait à nouveau. Car c'est dans la nature des gens d'aimer, puis de détruire, puis d'aimer à nouveau ce qu'ils chérissent le plus. Question. Mais pourquoi ? Pourquoi donc faisons-nous cela ? Réponse. Toutes les actions humaines sont motivées, à leur niveau le plus profond, par l'une de ces deux émotions, la peur ou l'amour. En vérité, il n'y a que deux émotions, que deux mots dans le langage de l'âme. Ce sont les opposés extrêmes de la grande polarité que j'ai créée en produisant l'univers, ton monde, tel que tu le connais aujourd'hui. Ce sont les deux points, l'alpha et l'oméga, qui permettent l'existence du système que tu appelles « relativité ». Sans ces deux points, sans ces deux idées à propos des choses, aucune autre idée ne pourrait exister. Chaque pensée humaine et chaque action humaine est fondée soit sur l'amour, soit sur la peur. En réalité, il n'y a pas d'autre motivation et toutes les autres idées sont dérivées de ces deux-là. Ce ne sont que des versions différentes, des tournures différentes du même thème. Pense-y bien et tu verras que c'est vrai. C'est ce que j'ai appelé la pensée racine. C'est une pensée soit d'amour, soit de peur. C'est la pensée derrière la pensée, derrière la pensée. C'est la première pensée. C'est la force première. C'est l'énergie brute qui propulse le moteur de l'expérience humaine. Voilà comment le comportement humain produit, en chaîne, la reprise des mêmes expériences. Voilà pourquoi les humains aiment, détruisent, puis aiment à nouveau, toujours ce balancement d'une émotion à l'autre. L'amour parraine la peur, qui parraine l'amour, qui parraine la peur. Et la raison s'en trouve dans le premier mensonge, le mensonge que tu prends pour la vérité à propos de Dieu. Qu'on ne peut avoir confiance en Dieu, qu'on ne peut compter sur l'amour de Dieu, que Dieu t'accepte de façon conditionnelle, et que par conséquent, le résultat ultime est douteux. Car si tu ne peux compter sur le fait que l'amour de Dieu sera toujours là, sur l'amour de qui pourras-tu compter? Si Dieu se retire lorsque tu n'agis pas correctement, les simples mortels n'en feront-ils pas autant? Ainsi, au moment où tu promets ton plus grand amour, tu accueilles ta plus grande peur. Car aussitôt après avoir dit « je t'aime », tu t'inquiètes de ce que cet amour ne te soit pas retourné. Et s'il l'est, tu te mets aussitôt à t'inquiéter de perdre l'amour que tu viens de trouver. Ainsi, toute action devient réaction pour te défendre contre la perte, même lorsque tu cherches à te défendre contre la perte de Dieu. Cependant, si tu savais qui tu es, l'être le plus magnifique, le plus remarquable, le plus splendide que Dieu ait jamais créé, tu n'aurais jamais peur. Car qui pourrait rejeter une telle magnificence? Même Dieu ne pourrait trouver à redire d'un tel être. Mais tu ne sais pas qui tu es, et tu te crois bien inférieur. D'où t'est venue l'idée que tu étais bien moins beau? Des seuls gens que tu as cru sur parole à propos de tout, de ta mère et de ton père? Ce sont les gens qui t'aiment le plus. Pourquoi te mentiraient-ils? Mais ne t'ont-ils pas dit que tu étais trop ceci et pas suffisamment cela? Ne t'ont-ils pas rappelé que tu devais bien paraître et ne rien dire? Ne t'ont-ils pas réprimandé à certains moments de ta trop grande exubérance? Et ne t'ont-ils pas encouragé à laisser de côté certaines de tes idées les plus folles? Ce sont les mensonges que tu as reçus, et, bien qu'ils ne répondent pas aux critères et ne soient pas, par conséquent, des messages de Dieu, c'est tout comme, car ils te sont bel et bien parvenus des dieux de ton univers. Ce sont tes parents qui t'ont enseigné que l'amour était conditionnel, tu as souvent éprouvé leurs conditions, et c'est cette expérience que tu fais entrer dans toutes tes relations amoureuses. C'est aussi l'expérience avec laquelle tu viens vers moi. À partir de cette expérience, tu tires tes conclusions à mon égard. Dans ce cadre de pensée, tu exprimes ta vérité. Dieu est un Dieu aimant, te dis-tu. Mais si tu déroges à ses commandements, il te punira d'un bannissement éternel et d'une damnation perpétuelle. Car tu ne t'es pas senti banni par tes propres parents. Ne connais-tu pas la douleur d'avoir été damné par eux? Comment, alors, pourrais-tu imaginer que ce soit différent avec moi? tu as oublié ce que c'est que d'être aimé sans condition. Tu ne te rappelles pas l'expérience de l'amour de Dieu. Ainsi, tu essaies d'imaginer à quoi peut bien ressembler l'amour de Dieu, mais selon ta perception de l'amour dans le monde. Tu as projeté sur Dieu le rôle de parent. Tu as donc abouti à un Dieu qui juge, récompense ou punit à partir de ses sentiments à propos de ce que tu as fait. Mais c'est une vision simpliste de Dieu fondée sur ta mythologie. Elle n'a rien à voir avec qui je suis. Ayant ainsi créé à propos de Dieu tout un système de pensée fondé sur l'expérience humaine plutôt que sur les vérités spirituelles, tu crées ensuite toute une réalité autour de l'amour. C'est une réalité fondée sur la peur, enracinée dans l'idée d'un Dieu terrible et vengeur. Sa pensée racine est fausse, mais nier cette pensée, ce serait perturber toute ta théologie. La nouvelle théologie qui la remplacera serait vraiment ton salut. Mais tu ne peux l'accepter car l'idée d'un Dieu qui n'est pas à craindre, qui ne juge pas et qui n'a aucune raison de te punir est tout simplement trop belle pour faire partie de ton idée la plus grandiose de qui est Dieu et de ce qu'il est. Cette réalité autour de l'amour, qui est fondée sur la peur, domine ton expérience de l'amour. En effet, elle la crée. Car non seulement tu te vois recevoir de l'amour conditionnel, mais tu observes également que tu le donnes de la même manière. Et même lorsque tu te retiens, te retires et poses tes conditions, une part de toi sait que ce n'est pas vraiment de l'amour. Mais tu sembles impuissant à changer la façon dont tu le dispenses. Tu as appris à la dure, te dis-tu, et le diable t'emporte si tu te rends à nouveau vulnérable. En vérité, cependant, le diable t'emporte si tu ne le fais pas. À cause de tes propres pensées erronées à propos de l'amour, tu te condamnes à ne jamais en faire l'expérience pure. Ainsi, tu te condamnes à ne jamais me connaître tel que je suis en réalité, jusqu'au moment où tu le feras, car tu ne pourras me nier indéfiniment, et viendra un jour le temps de notre réconciliation. Toute action entreprise par les êtres humains est fondée soit sur l'amour, soit sur la peur. Et cela ne se limite pas aux relations personnelles. Les décisions qui affectent le commerce, l'industrie, la politique, la religion, l'éducation de vos jeunes, les programmes sociaux de vos pays, les objectifs économiques de votre société, les choix concernant la guerre, la paix, l'attaque, la défense, l'agression, la soumission, la décision de convoiter ou de donner, d'épargner ou de partager, d'unir ou de diviser, chacun des choix que tu fais librement, tout cela vient de l'une des deux seules pensées possibles, une pensée d'amour ou une pensée de peur. La peur est l'énergie qui contracte, referme, attire, court, cache, entasse et blesse. L'amour est l'énergie qui s'étend, s'ouvre, envoie, reste, révèle, partage et guérit. La peur enveloppe nos corps dans les vêtements. L'amour nous permet de rester nus. La peur s'accroche et se cramponne à tout ce que nous avons. L'amour donne tout ce que nous avons. La peur retient l'amour chéri. La peur empoigne, l'amour lâche prise. La peur laisse de la rancœur, l'amour soulage. La peur attaque, l'amour répare. Chaque pensée, parole ou action humaine est fondée sur l'une ou l'autre émotion. Tu n'as aucun choix à cet égard, car il n'y a pas d'autre choix. Mais tu es libre de choisir entre les deux.